got you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Camille Ferré, Virginie Leduo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Olivier Guérin. Ce soir, Elisabeth Franck-Dumas et René Solis se font face à notre affiche. Soudain, l'été dernier, le Tennessee Williams, mise en scène Stéphane Braunschweig à l'Odéon. Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, mise en scène Ulysse Di Gregorio au Lucernaire. Nous évoquerons plus rapidement le festival Étrange Cargo à la Ménagerie de Verre et Dorine d'André Gortz et David Jezelson au Théâtre de la Bastille. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le Petit Salon pour parler de la rareté des rôles féminins dans le répertoire. Et Lucille Comeau passera enfin l'émission. Un coup de fil à la metteur en scène Anne Théron pour son spectacle « Celle qui me traverse » créé le demain. Demain, oui, le 21 mars et demain, à la scène nationale de la Roche-sur-Yon, le Grand Air. Bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. À l'occasion du festival Cinéma du Réel, deux invitations pour voir le film « Paris est une fête » de Sylvain Georges, dimanche 26 mars à 21h au Centre Pompidou à Paris. Débat, c'est donc tous les soirs à 21h sur France Culture. Ce soir, on commence par aller à l'Odéon Théâtre de l'Europe pour la première mise en scène de Stéphane Braunschweig dans ce théâtre depuis qu'il le dirige. Il avait prévu de monter soudain l'été dernier Tennessee Williams au Théâtre de la Colline qu'il dirigeait précédemment et a semble-t-il hésité à conserver ce projet, ce qu'il a pourtant fait. C'est une nouvelle traduction de Jean-Michel Desprats et Marie-Claire Pasquier. On retrouve bien sûr Violette Venable, richissime veuve qui fait venir dans sa demeure de la Nouvelle-Orléans le docteur Kukrovitz, alias Sugar, jeune neurochirurgien qui s'est fait connaître en expérimentant la lobotomie. Le fils de Violette, Sébastien, est mort en Europe l'été précédent. Sa nièce, Catherine, qui était là au moment de sa mort, est soudain devenue folle, dit-on. Violette pense qu'une bonne lobotomie pourrait l'aider à recouvrer la raison.
Refuser de vieillir, docteur, cela exige du caractère. Refuser de vieillir et y parvenir, cela demande de la discipline, de l'abstinence. Un seul cocktail avant le dîner, pas deux, quatre, six. Une seule côtelette de viande maigre et du jus de citron vert sur une salade, même dans les restaurants gastronomiques.
Mrs. Venable, la mère et le frère de Miss Holly sont...
Salut, tante Vivi!
Ma chère Violette, nous sommes là!
Et ils sont là.
Attendez-moi là-haut, dans le salon du premier. Faites-les monter au premier, je ne veux pas qu'ils soient là, derrière la fenêtre, pendant notre conversation. Éloignons-nous de la fenêtre, docteur.
Mrs. Venable, votre fils avait-il une... disons, quelle sorte de vie personnelle, disons, de vie privée avait...
Voilà la question que je voulais que vous me posiez.
Pourquoi cela?
Je n'ai pas entendu l'histoire que raconte cette fille, sinon indirectement dans une version édulcorée. J'étais trop malade pour aller l'écouter directement. Mais j'en ai compris assez pour savoir qu'il s'agit d'une attaque ignoble contre la réputation de mon fils. Attaque contre laquelle, étant mort, il ne peut pas se défendre. C'est donc moi qui dois me charger de sa défense. Asseyez-vous, docteur.
Asseyez-vous.
Écoutez-moi.
Soudain, l'été dernier, Tennessee Williams, mise en scène Stéphane Braunschweig en ce moment à l'affiche de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Il y aura quelques dates ensuite, ce sera à Marseille et à Milan. Sauf erreur, oui, c'est bien ça. On commence avec vous, Elisabeth Franck-Dumas.
Oui. Alors, vous expliquiez, Arnaud Laporte, dans votre introduction, que Stéphane Braunschweig avait d'abord envisagé cette pièce donc pour le Théâtre de la Colline. Il a expliqué dans les colonnes de Libération qu'il s'est posé la question, est-ce que je poursuis cette idée ou pas pour ma première mise en scène au Théâtre de l'Odéon. Et c'est vrai que je trouve que la question se pose. Moi, je suis sortie de la pièce en me demandant un petit peu pourquoi monter cette pièce-là aujourd'hui ? Je ne trouvais pas que la mise en scène, finalement, réponde de manière extrêmement convaincante à cette question. Alors, lui-même expliquait que ce qui l'a intéressé dans la pièce, c'est moins le côté psychologique, qui peut être un écueil, je pense, dans les mises en scène de Tennessee Williams, c'est toujours un problème avec ces textes qui ont parfois un côté un petit peu daté, mais plus le versant politique qui traverse la pièce, et c'est vrai qu'il y en a un. On voit bien que se joue aussi une histoire de rapport entre dominant et dominé, entre nord et sud, entre ces cannibales riches et blancs qui vont finir par être dévorés, ou en tout cas l'un d'entre eux. Enfin, donc c'est vrai que ça existe dans le texte de Tennessee Williams, mais je ne trouvais que ça résonne quand on assiste à cette pièce aujourd'hui à l'Odéon, mais finalement pas tant que ça, ou en tout cas j'ai pas trouvé que la mise en scène faisait résonner justement cet aspect là tant que ça. Alors certes, Stéphane Branchevêque a fait le choix de faire jouer Jean-Baptiste Anoumont, qui est noir, le rôle du docteur Sugar, ce qui est une manière à la fois de mesurer le chemin parcouru depuis l'époque de Tennessee Williams, c'est peut-être le chemin qui reste à faire, mais à part ça, j'ai pas vraiment vu dans la mise en scène quelque chose qui appuie cette idée-là. Et j'ai trouvé le texte était déroulé. Il y a une comédienne notamment qui est absolument formidable, il y a une très belle scénographie, mais j'ai pas trouvé sinon qu'il y avait énormément d'inventions, qu'il y avait quelque chose qui... j'ai trouvé qu'il s'était finalement déroulé de manière assez linéaire, un petit peu à plat. Il y a un problème de sonorisation, ça pourrait paraître un détail, ou en tout cas le soir où j'y étais, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai problème de sonorisation. On avait l'impression d'entendre des voix comme au fond d'un bocal, ce qui donnait quelque chose de très étrange, alors peut-être fait exprès, mais en même temps on restait très à distance, et ça m'a énormément gênée dans la deuxième partie de la pièce, qui est la partie où la nièce Catherine, jouée par Marie Raymond, fait le récit de la mort du personnage, de la mort de Sébastien. J'ai eu le sentiment qu'elle le faisait entièrement toujours sur la même ligne, sur la même corde, une espèce d'affolement dont elle ne sort jamais. Et donc, on est censé assister à une montée, ou en tout cas éprouver une montée en intensité à cet endroit-là. Et moi, je suis restée totalement en dehors.
Alors, pour le coup, il me semble qu'à ce moment-là, je pense que ça fait exprès, il n'y a plus de sonorisation, pour le coup. Dans le récit que fait Catherine, elle est d'ailleurs un peu à l'avant-scène, alors je ne sais pas si c'était le cas, je ne sais pas si on a été le même soir, je sais que je vous ai vu Elisabeth Franck-Dumas, donc nous on était le même soir, ouais. J'ai pensé que c'était un fait exprès, je trouvais ça plutôt assez fin que là la sonorisation soit coupée, et il me semble que la montée en puissance elle est dans le récit, mais bon,
j'ai pas senti la montée en puissance. Après, je voudrais pas livrer une lecture entièrement critique de la pièce. C'est vrai que Luce Mouchel dans le rôle de Mrs. Venable est absolument formidable. Ce rôle de cette snob épouvantable, inhumaine, pleine de certitudes, elle la joue à la perfection. La scénographie, c'est vrai aussi, est assez incroyable. Cette jungle hyper présente qui écrase les personnages, c'est normal, on est chez elle. On est chez elle qui écrase tout le monde, qui prend toute la place à l'image de cette jungle. Il y a plein de choses très bien vues, mais justement, j'ai trouvé que ça s'effondrait un petit peu. Voilà, cette montée en intensité à laquelle je m'attendais et
que vous n'avez pas ressenti.
Pas d'assister. Ouais. Non.
René Solis, pour vous, premières impressions sur Soudain l'été dernier.
Alors, on n'a pas du tout ressenti la même chose, parce que pour ma part, moi qui ne suis pas un grand fanat du théâtre psychologique en général, je trouve que Stéphane Branchevêque assume parfaitement cette dimension-là. De façon extrêmement simple, je trouve que son spectacle a beaucoup de vertus. Alors, on parlait de est-ce qu'il avait hésité à le faire. Premier spectacle à l'Odéon, je trouve que c'est un très bel hommage au théâtre de Luc Bondy, ce spectacle, parce que je trouve qu'il est tout à fait dans cette lignée-là d'un théâtre psychologique, de théâtre bourgeois, qui était un adjectif que Luc Bondy revendiquait volontiers, et qui donc, il ne cherche pas du tout à feinter avec ça. La pièce, il la joue, il la déroule, c'est vrai, il y a quelque chose de très simple dans la façon dont c'est fait, dans la façon dont les acteurs sont dirigés, dans la façon dont les scènes sont abordées. Quelque chose de très simple dans ce décor à la fois métaphorique, magnifique, vous l'avez dit, et c'est vrai, qui est, oui, c'est peut-être quand même surtout, tout simplement, une représentation de l'inconscient, c'est-à-dire l'inconscient vu comme une jungle inextricable, un chaos, avec les plantes carnivores, les fleurs vénéneuses, et les lianes, et cette espèce de chaos inextricable, qui finalement finit par se dégager à mesure que monte cette parole, et qu'arrive cette parole libératrice. Alors, dimension politique, vous l'avez dit, oui, c'est vrai sur le fait de confier le rôle du docteur à un comédien noir, mais alors j'en ai pas tout à fait la même lecture en fait. Mais d'abord, ce que je trouve qu'on entend formidablement bien, et en ça, je trouve pas du tout que la pièce de Tennessee Williams soit désuète ou qu'on sente son âge, c'est ce qui se livre, et ce qui est très politique pour le coup dans la façon dont on l'aperçoit, c'est ce combat entre pour la vérité et pour la liberté. C'est-à-dire que l'idée que la vérité est le prix à payer pour accéder à la liberté. Et cette vérité, cette question de la vérité, elle est absolument centrale, on l'entend en tout cas de façon centrale dans la mise en scène de Stéphane Braunschweig. Et cette histoire de la vérité telle que Tennessee Williams la défendait dans les années 50 de façon un peu naïve, avec, y compris cette défense de la psychanalyse, de cette parole libératrice qui finit par vaincre les puissances obscures, les puissances de l'argent, les puissances du pouvoir, etc. Je trouve que réentendre ça aujourd'hui dans l'Amérique de Trump, il y a quelque chose pour moi de tout à fait à la fois touchant et politiquement important. C'est-à-dire que se rappeler que ce combat-là, ce combat de la vérité, il est absolument essentiel. Il est essentiel dans l'histoire des États-Unis et que c'est ça qui se joue aussi dans la pièce. Et ça, je trouve qu'on l'entend formidablement bien.
Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait dire que Mrs. Venable, elle attend des faits alternatifs plutôt que la vérité, que c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai une impression un peu mitigée de ce spectacle, parce que, alors, il y a quand même le souvenir, en tout cas pour moi, assez écrasant du film de Mankiewicz, qui avait quand même un casting assez incroyable, oui, de Catherine Hepburn et Taylor Monticlift, dont on sait par ailleurs que Tennessee Williams ne l'aimait pas, parce qu'il disait que Mankiewicz était trop au premier degré par rapport au texte et qu'il n'en saisissait pas toute la dimension métaphorique. En même temps, ce que fait Braunschweig dès le départ avec ce décor, c'est être absolument au premier degré sur la longue didascalie qui décrit effectivement ce jardin comme une jungle, et c'est vraiment cela qu'il fait. Donc finalement, il faut peut-être pas toujours, ou voire jamais, écouter les auteurs, parce que je trouve qu'effectivement il est très premier degré. Moi, ce qui m'a surtout beaucoup plu dans ce spectacle, c'est le texte en fait. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une très très grande beauté, alors parce qu'il est très bien servi, oui, par les interprètes, et effectivement Luce Mouchel en tête, parce qu'elle est absolument, enfin, elle a une partition absolument d'une précision, d'une folie presque, enfin évidemment elle est plus de son côté, j'hésitais à employer ce mot-là parce qu'il est évidemment compliqué dans cette représentation. En tout cas, elle donne une épaisseur dramaturgique très intense à toutes les situations, parce qu'elle est veuve certes de mari, mais elle est surtout veuve de fils, c'est ce qu'on voit absolument tout de suite. Mais si on n'a pas vu le film et si on connaît pas la pièce, moi il me semble quand même que le récit de Catherine il donne une résolution à cette histoire d'une force, enfin d'une violence, d'une... C'est surprenant que vous l'ayez pas du tout, vous l'avez pas perçu comme
non,
tel
alors,
en tout cas.
Mais
vous
alors peut-être parce que je connais
film,
déjà la pièce. Et donc,
moi j'avais jamais vu jouer, j'avoue, la pièce. Hein, je ne connaissais que le film.
Alors moi j'avais vu jouer aux États-Unis, ouais. Mais alors peut-être justement parce que je connaissais déjà et je m'attendais m'attendais à être soulevée et je ne l'ai pas été. Mm-hmm. Alors je ne me souviens plus. Est-ce que j'ai noté à ce moment-là si la sonorisation continuait ou pas? Mais j'aimerais bien qu'on y revienne parce que je suis curieuse d'avoir votre avis. Moi au début ça m'a
Le tout début
gêné.
Du spectacle, ça m'a gêné,
oui,
moi aussi.
On avait l'impression que les personnages parlaient du fond d'une bouteille.
On ne sait pas d'où ça parle.
Je ne comprenais pas à quoi ils voulaient en venir avec cette idée-là. Ils ne sont pas là, ils arrivent tout à coup. Ils sont, en fait, on les entend avant de les voir. Puis
ils
tout à coup, ils surgissent de derrière un arbre. Et finalement, il ne se passe rien, puisque tout reste sur la même ligne sonore. Et je comprends pas ce qu'il a voulu faire, et en fait ça m'empêchait de rentrer dans la pièce, d'être pleinement là, de les observer. J'étais totalement concentrée sur l'étrangeté de ce son.
Ça vous a pas dérangé, René Solis?
Non, enfin, moi, je n'ai pas vu le spectacle le même soir que vous, donc j'ai pas remarqué de problème de sonorisation. J'ai évidemment noté ce début qui est un peu déroutant, avec en plus ce phénomène des voix dont on ne sait pas effectivement d'où elles viennent, puisque les personnages ne sont pas sur scène. Mais ça, après tout, voilà, il y a une espèce d'effet d'étrangeté, et une fois qu'ils sont là, ils sont là. On peut discuter de la sonorisation et déplorer qu'elle soit systématique et on peut se dire qu'après tout, et surtout à l'Odéon, dans l'acoustique de l'Odéon, elle n'est pas complètement indispensable, ça oui. Mais je n'ai pas noté ce que vous dites sur la deuxième partie donc, de la sonorisation qui
moi,
défaillante
sens,
au moment de...
Je ne sens pas qu'elle soit défaillante, moi je crois que c'était un choix,
monologue,
je l'ai vu comme un choix
de Catherine. Mais je voudrais revenir sur ce monologue de Catherine, parce que contrairement à vous, Elisabeth, moi, j'ai été totalement emportée par ce monologue. Mm. Je trouve que la distribution est de bonne tenue, je suis d'accord sur Luce Mouchel, mais je trouve moi que Marie Raymond est absolument formidable. Je l'ai découverte, je crois que je...
Voilà, vous avez peut-être vu dans Agassi, peut-être.
J'avais peut-être, oui. Non, je crois pas que j'avais vu Agassi. Et je trouve qu'elle est formidable. Je trouve qu'elle donne à la pièce, justement, cette espèce d'intensité, de fragilité, j'ai complètement suivi, tout à fait cette espèce de grande libération par la parole, et encore une fois avec cette dimension presque naïve, mais je me disais en sortant, mais c'est un spectacle, j'aurais envie d'y envoyer tous les gens qui ont écrit ces dernières années des âneries sur Freud, sur la psychanalyse, parce que il y a là quelque chose quand même d'essentiel sur une vérité de la parole, justement. Voilà,
les salles de l'Odéon sont déjà bien pleines, alors si vous envoyez tout cela,
il va falloir faire ça. Il faudrait qu'ils entendent de ça.
Ouais.
Voilà.
Oui, je suis d'accord avec vous, Elisabeth Franck Dumas.
Alors, pour revenir sur ce monologue et sur cette idée de la vérité, moi, j'ai la réverbération avec l'Amérique de Trump, je la vois pas, parce que je trouve que ce qui est en train de se passer autour de ces faits alternatifs est d'une telle sophistication et d'une telle modernité, et au contraire la naïveté de Catherine, ou de Catherine telle qu'elle est vue dans cette mise en scène là. Pour moi, ne parle pas du tout au même endroit et n'est pas une réponse.
Moi, j'ai pas pensé une seconde à Trump, hein, mais je savais pas que c'était dans l'intention du metteur en scène.
Non, moi je n'ai pas pensé à Trump. Je rebondissais sur ce que disait René Solis.
Je pense pas que c'était l'intention forcément de Stéphane Branchebec. C'est en tout cas une des choses que moi j'ai entendues. Je me suis dit quelque chose qui résonne. De même, le choix de faire interpréter le docteur Sugar par un comédien noir, c'est pas seulement ces histoires de Nord-Sud. Je crois que c'est quand même là aussi une façon un tout petit peu de remettre de l'Obama là-dedans. On en fait ce qu'on veut, mais le fait est que cette parole, celui qui est censé être celui qui va lobotomiser et qui est en fait celui qui est le déclencheur de la recherche de la vérité et de cette parole libératrice, le fait que ce soit un comédien noir, sans que ce soit
j'espère que c'est surtout la mise en pratique du programme
qui n'y sont pas forcément. Il y a juste comme ça des choses qu'on peut noter, en tout cas qui font que je suis sorti de ce spectacle avec l'impression d'avoir entendu des choses qui m'ont enrichi.
Enfin, j'espère surtout que le choix de Jean-Baptiste Anoumont, c'est surtout la prolongation par les actes, si je puis dire, de premier acte, le programme initié notamment par Stéphane Brunschweig et Stanislas Nordet, qui vise à faire entrer plus d'acteurs, comme on dit, issus de la diversité dans le langage actuel, sur les plateaux. On ne voit pas pourquoi, effectivement, un comédien noir ne pourrait pas jouer le Dr Sugar comme une comédienne noire ou d'autres origines pourraient jouer Mrs. Venable dans une autre production. Il est normal que soient présents sur les plateaux des acteurs et des actrices de tous horizons, de toutes couleurs de peau, question de genre, on en reparlera demain soir dans la dispute à propos de When We Rise, de Louise et d'autres séries qui se posent ce genre de questions. Pardon, j'ai fait un petit embardé, mais c'est aussi ça parce que c'est un sujet dont on parle quand même de façon assez récurrente, la question de la diversité sur les plateaux. Là, voilà, moi j'ai pas vu beaucoup plus d'autres choses que de chercher le bon comédien pour le rôle. Il me semble qu'il l'est, en effet, le docteur Sugar.
Oui, il l'est, et c'est vrai que c'est un rôle en plus qui est...
Problème.
C'est un personnage extraordinairement réconfortant, en tout cas pour le spectateur, qui attend le moment où quelqu'un va enfin prendre le parti de cette pauvre Catherine, et cette parole d'autorité, qui est une autre forme d'autorité, qui est une autorité scientifique. Alors là, c'est vrai que ça, c'est une autorité qui est prise à défaut dans l'Amérique de Trump, mais que cette autorité arrive là et valide et encourage cette parole, c'est vrai qu'on ressent quand même un profond soulagement.
Bon, et puis, par rapport au petit salon qui va suivre, de voir des femmes à l'honneur, à l'Odéon, en ce moment, toujours un amour impossible, alors que vous l'ayez aimé ou pas. Moi, je continue à avoir pris un grand plaisir à voir Bulogier, Marianne Medeiros. Et là, notamment, Luce Mouchel et Marie Raymond. Voilà, de beaux rôles de femmes, ce qui nous va nous faire une très belle transition. Le temps de dire que, soudain, l'été dernier, de Tennessee Williams, mise en scène Stéphane Brunswick, c'est à l'Odéon, la salle du 6e arrondissement, jusqu'au 14 avril. Ensuite, d'autres représentations, au théâtre du Gymnase à Marseille, du 25 au 29 avril. Et puis au Piccolo Teatro à Milan du 11 au 14 mai.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans la dispute, le festival Étrange Cargo, André Gortz, Arthur Rimbaud et Anne Théron. Avant cela, nous suivons Lucille Como dans le petit salon. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, des rôles de femmes pour les hommes et inversement.
Oui, le 11 mars dernier, quelques jours après la journée pour le droit des femmes, Éric Ruff, administrateur de la Comédie Française, donnait au Monde un entretien intitulé « Le mouvement pour l'égalité des sexes dans le théâtre est irréversible ». Il vantait ainsi son action de ce point de vue aux Français, rappelant que pour la saison 2016-2017, il aura accueilli plus de femmes que d'hommes à la mise en scène. En revanche, le nombre de femmes comédiennes reste bien inférieur au nombre d'hommes, puisqu'elles représentent environ un tiers des effectifs de la troupe. Éric Ruff ajoute « C'est déjà très généreux, je cite, si je puis dire au regard du répertoire, qui comprend une grande majorité de rôles masculins. Arriver à la parité serait absurde. Ce serait joli sur le papier, mais s'il n'y a pas de rôle à donner aux femmes, elles me demanderaient très vite pourquoi elles ont été engagées et à quoi elles servent. » Et d'ajouter un peu plus loin, au conservatoire, les filles sont plus nombreuses et l'on se retrouve à être un peu moins exigeant avec les garçons parce qu'il faut des promotions paritaires. Ensuite, dans la vie professionnelle, il y a plus de rôles pour les garçons dans le répertoire, ce qui dessert les filles. Que faire donc de cette différence historique irréductible ? Dans un long article paru au printemps dernier, notre confrère ici à la dispute, Philippe Chevillet, revenait sur cette injustice propre au répertoire théâtral, citant notamment la conservatrice archiviste de la même Comédie Française, Agathe Sanjouan, selon laquelle il y a beaucoup plus de rôles d'hommes dans le théâtre et ils ont beaucoup plus de textes à dire, et de préciser que par ailleurs les rôles masculins sont souvent bien plus valorisants et autrement complexes. Une des conséquences en est que tout rôle d'héroïne est lourd d'enjeux pesants pour la comédienne qui l'incarne, autrement dit, elle est d'autant plus attendue au tournant. Philippe Chevillet rappelle qu'au XIXe siècle, la réputation d'une comédienne se forgeait pendant les 10 premières représentations qu'elle assurait dans le rôle d'une héroïne du théâtre classique, Émilie dans Cinna, Pauline dans Polyeucte, Phèdre, Bérénice, etc. C'est en quelque sorte toujours le cas, chaque reprise de rôle féminin dans un grand classique attire tous les regards et les commentaires. Alors, y a-t-il des solutions pour tordre ce sort ? Peut-être jouer plus de pièces modernes et contemporaines, ou alors aller à l'encontre absolue du système des emplois et faire endosser des rôles masculins par les femmes. Pour le coup, ça a existé historiquement. On le sait, Sarah Bernhardt a joué Lorenza Tchio, Hamlet, L'Aiglon, mais c'était alors une exception quand l'inverse n'est pas vrai. Traditionnellement, les hommes sur scène ont beaucoup joué les femmes pour des raisons morales, religieuses ou politiques. Pour revenir à l'interview d'Éric Ruff, il suggère la possibilité en effet de faire jouer des rôles masculins par les femmes. Rappelle que dernièrement, Suliane Brahim jouait Gennaro dans Lucrèce Borgia, mise en scène par Denis Podalydès. Rappelons quant à nous que dans cette production particulière, le rôle de Lucrèce, certainement un des rôles de femmes les plus passionnants justement du répertoire, était originellement interprété par un homme, en l'occurrence Guillaume Gallienne. Alors était-ce faire affront au personnel féminin de la troupe et plus généralement, la parité est-elle une valeur qui a un sens sur une scène de théâtre ?
Alors, comme d'habitude, des questions simples, évidemment, auxquelles on peut répondre de façon extrêmement concise. René Solis.
Oui, alors, il y a toujours cette question, évidemment, on parlait de Sarah Bernhardt. Ce qui est frappant, c'est que la transgression d'actrices jouant des rôles d'hommes, elles semblent réservées à des monstres sacrés. Hein. Il y a eu Maria Cazares à jouer Lear, Angela Winkler jouant Hamlet, Fiona Shaw jouant Richard II. Voilà. Mais à chaque fois, c'est des comme ça, un peu des non pas des divas, mais on va dire des monstresses, enfin des personnages comme ça. Et moi, je comprends pas très bien pourquoi le mouvement se généralise pas un peu plus. Je dois dire que effectivement, cette histoire de rôle d'homme et de rôle de femme Voilà, pas totalement. Il explique Ruff que ça change un peu, mais que je trouve que on pourrait quand même imaginer d'y aller beaucoup plus franco là-dedans. Et voilà, je comprends pas très bien pourquoi c'est encore aussi prudent, pourquoi on freine encore autant à ça, à mélanger allègrement, voilà. Et pourquoi est-ce que on sait bien pourquoi est-ce que des vieux devraient jouer des vieux et des jeunes les jeunes. Enfin, c'est-à-dire quand même, ça sert à ça le théâtre aussi, à justement changer de rôle, changer de sexe, changer de voilà de fonction. Donc bon.
Elisabeth Franck-Dumas.
Oui, je suis entièrement d'accord avec René Solis. C'est quand même, l'illusion est inscrite au cœur du théâtre. Donc évidemment, faire jouer des rôles d'hommes par des femmes. On est d'ailleurs beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins frileux pour ces histoires de jeunes vieux que pour des histoires de genre. Donc oui, je ne sais pas non plus pourquoi ça ne se fait pas plus. J'imagine que ça va se généraliser. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit comme vous le disiez, enfin des petits rôles, voilà. Que ça devienne anodin, que ça devienne banal et qu'il faille pas avoir recours forcément à des monstres sacrés. Et je pense que dans toutes ces questions, il est évidemment pas question de talent, il est question le talent de toute façon il sera là, mais il faut que le talent soit aussi aidé par quelque chose d'un peu volontariste, enfin pas seulement volontariste d'ailleurs, qui peut être extrêmement payant sur le plan créatif, plan de l'imaginaire, sur le plan de l'évocation. Donc au contraire, moi je pense que sur certaines pièces, ça enrichirait énormément le propos.
Ah oui, ça ouvrirait de nouveaux horizons, oui. Ça permettrait des lectures autres. Puisque ça
n'est jamais anodin. Enfin, ouais, le talent est toujours là, mais quand on fait un choix qui est un pas de côté, c'est pas anodin et ça vient vraiment enrichir l'œuvre et le personnage.
Lucine ?
Je me faisais cette réflexion que précisément sur la question des générations, c'est extrêmement répandu et je ne comprends pas pourquoi ça pose plus de problèmes. Enfin, c'est intéressant d'ailleurs. Pourquoi ça pose plus de problèmes sur la question du genre ? C'est quand même assez mystérieux. Il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles on ne fait pas jouer des hommes par des femmes et des femmes par des hommes.
De façon plus régulière, non ?
Oui, d'autant que enfin moi j'ai des souvenirs alors très forts à chaque fois. C'est-à-dire Cazares dans Lear, ça apportait quelque chose au rôle, évidemment. Enfin, Fiona Shaw, Richard II, c'est quand même un des grands souvenirs de théâtre que j'ai. Enfin, donc oui, on comprend pas.
Bon, on n'a pas de réponse à votre question, Lucille Comeau, c'est embêtant. Vous en voulez pas ? Bon,
je vais m'en contenter.
Bon, c'est vrai. On ne comprend pas pourquoi, en effet. Mais bon, après, sur la question des rôles et du répertoire, c'est une autre question. Je soulignais effectivement la présence de femmes au premier plan des scènes, notamment du Théâtre de Léon en ce moment. Mais voilà, la question du répertoire.
Il faut écrire des rôles de femmes.
Autre.
Mais
voilà,
et est-ce qu'il y en a vraiment plus ? Ça, je ne sais pas, je pensais au théâtre. Au théâtre du XXe siècle, même, qui s'écrivait, je pense à Beckett ou à Coltès, c'est-à-dire à nouveau beaucoup, beaucoup de rôles d'hommes. Qu'aujourd'hui, les jeunes dramaturges écrivent plus pour les femmes ? Je ne suis pas certaine.
Oui, alors comment on s'interrogeait il n'y a pas très longtemps sur ce que ça voulait dire, film de femmes, peut-être qu'il y aurait peut-être plus de sens à parler de pièces de femmes, parce que pour le coup, des auteurs de théâtre féminin ont plus de propension, me semble-t-il, à écrire des rôles pour des femmes. Parce qu'effectivement, il en manque terriblement que par rapport au cinéma, où effectivement, film de femme, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais l'écriture, c'est ça la question. Il manque les rôles à écrire. Bon, voilà. Avis aux auteurs de tout genre d'écrire de beaux rôles de femmes pour nos disputes à venir. Alors, hommes, femmes, transgenres, queer, on peut trouver tout au Festival Étrange Cargo, la Ménagerie de Verre, qui est un lieu qui a depuis bien longtemps bousculé toutes les étiquettes, toutes ces questions-là, qui sont alors là vraiment antédiluviennes pour cette salle précieuse dans Paris et ce festival qu'il est tout autant, René Solis.
Je sais, Arnaud, que vous aimez ce lieu, je pense que Elisabeth aussi, qui est quand même un lieu magique, on peut le dire, comme il en existe très peu à Paris. Donc un lieu de création, un lieu d'art et essai. J'aime bien l'expression art et essai. Je trouve qu'on l'applique pas assez à la danse, au théâtre, à la musique, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Un lieu alors de croisement absolu, avec une salle improbable, parce que plafond très bas, des colonnes, enfin quelque chose dont on se dit c'est pas pratique, et en même temps c'est un lieu qui est totalement habité, donc ouais. Et donc 20 ans quand même ce festival Étrange Cargo, avec à la tête de cette maison une personnalité quand même là aussi
et une femme,
oui
évidemment, plus, voilà, Marie, c'est pour ça qu'elle est ouverte, Marie-Thérèse Allier,
qui est là aussi un personnage, voilà, qui
essentiel,
hors norme et essentiel, on peut le dire.
Tellement, alors pour le coup, si on fait la liste depuis 20 ans, tous les gens qui sont passés par là. Non,
mais c'est impressionnant. Donc voilà. Donc 20e festival Étrange Cargo en ce moment. Alors c'est deux soirs à chaque fois. Moi j'ai pas pu encore y aller. Je vais y aller. Donc je
ne
sais pas. Il y a des propositions. Il y a des choses inégales comme toujours. On peut quand même citer les choses de cette semaine. Hein. Il y a Gaëlle Bourges qui présente un spectacle. Alors résumé des spectacles, une œuvre de peinture, une fresque italienne du XIVe siècle intitulée « La fresque du bon et du mauvais gouvernement », la recomposition de la fresque côté bon gouvernement, notamment une rida ou ronde non fermée, composée de 9 danseurs qui serpentent sur la place publique d'une ville, et une figure, Securitas, la sécurité. 3, la recomposition de la fresque côté mauvais gouvernement, notamment la tribune des 9 mauvais conseillers, et une figure, Timor, la peur. 4, un livre d'histoire traitant de la fresque en question. Bon, voilà, ouais, c'est ça le résumé. Ça. Du spectacle avec ça, voilà. Moi je suis désolé, j'ai très envie de voir ça.
Bien sûr,
voilà.
Ne soyez
et
pas
puis,
désolé.
Donc ça c'est demain et mercredi, et ouais. Puis jeudi, de jeudi à samedi, un groupe show avec une exposition d'œuvres immatérielles dans le format d'une performance. Donc une exposition interprétée par les deux galeristes dans laquelle ils présentent une sélection d'œuvres dont les formats s'étendent d'une danse à une thérapie en passant par un conflit ou une poésie instantanée. Bon, là aussi, on a quand même plutôt envie d'aller voir.
Ouais. Oui, puis la semaine passée, c'était Yves-Noël Jeannot et Jean-Luc Vernat. À suivre, il y aura aussi Malika Giardi, il y aura Giuseppe Chico, Barbara Matejic et Raymond Hogg, les habitués aussi de cette maison qui est la ménagerie de verre. Donc ça dure, a priori, jusqu'au 9 avril, c'est bien ça, l'étrange cargo. Il faut regarder le programme, même pas regarder le programme, il suffit d'y aller.
Enfin, oui.
Choisissez les jours où il y a des spectacles, c'est mieux.
Et c'est comme on veut, du théâtre, de la danse, des arts plastiques,
de la performance.
Ce qu'on veut cocher comme case.
À un lieu libre, ouvert, avec des propositions. Alors, de toute nature, hein, il n'y a pas de garantie, évidemment, et surtout pas de garantie de savoir ce qu'on va y voir, mais potentiellement y voir des choses qui vont nous marquer, nous remuer et nous rester. Donc voilà, Festival Étrange Cargo à la Ménagerie de Verre jusqu'au 9 avril. Autre proposition, autre recommandation, celle d'Elisabeth Franck-Dumas, d'aller au Théâtre de la Bastille voir Dorine.
Alors, qui est Dorine? Dorine, c'est la D de la lettre à D d'André Gortz. Je ne sais pas si nos auditeurs auront lu ce livre magnifique qu'André Gortz avait consacré à sa femme, Dorine Kerr, lorsqu'elle avait 82 ans, peu avant sa mort d'une maladie absolument épouvantable, qui a un nom barbare, l'arachnoïdite. André Gortz avait écrit ce livre qui était une déclaration d'amour magnifique, mais qui était aussi une sorte de mea culpa, de ne pas avoir suffisamment parlé d'elle, d'avoir mal écrit sur elle, et de vouloir faire son portrait, elle qui avait été dans l'ombre. Alors vous parliez de pièces qui sont écrites par des hommes pour des hommes ou par des hommes pour des femmes, ce qui est très beau. Une des premières choses qui est très belle dans ce spectacle, c'est que David Jezelson, en se penchant sur ce texte magnifique, n'a pas décidé d'en faire un seul en scène, mais créé le personnage de Dorine, qui était là sans l'être. Il s'est énormément documenté, c'est-à-dire que c'est pas un verbatim de cette lettre à D. Il a fait énormément de recherches, il a pu reconstituer beaucoup de choses de cette relation, de cet amour qui a traversé les décennies. Et donc, ils sont deux sur scène, Dorine, qui est jouée par Laure Matisse, et André Gortz, qui est joué par David Jezelson. Ils sont tous les deux formidables, vraiment merveilleux. La deuxième très belle trouvaille de la pièce, c'est qu'on est chez eux comme chez nous et inversement. On arrive, on est accueilli dans leur salon, un salon meublé un peu années 50. Le salon lui-même va traverser les époques. Ils nous accueillent, ils nous proposent un verre de vin, on est conviés à leur table, les spectateurs s'asseyent. Alors on a vécu ça il n'y a pas très longtemps dans le spectacle de Christiane Jataï. Là, il y a un rapport au spectateur qui est totalement différent. On n'est pas là pour l'avoir, le mettre en accusation, mais vraiment vraiment, il y a une générosité, un partage qui s'installe dès le début, qui ne nous quittera pas, puisqu'on a vraiment l'impression de participer pleinement au spectacle, et il y a un jeu très fin sur le glissement de l'acteur au personnage, du personnage à l'acteur. On n'est jamais certain d'être totalement dans l'illusion, de ne pas l'être, surtout que c'est une histoire qui a vraiment existé, entre guillemets. On distribue le livre au début, on peut le consulter pendant la représentation. Il y a quelque chose de très risqué et qui s'avère être extrêmement payant dans ce dispositif. Et bon, en plus, le texte est magnifique, cet amour est magnifique et il est intégralement partagé avec nous. C'est vraiment très beau. Il y a une idée de communauté de spectateurs qui se crée également. Il y a des spectateurs qui sont sur scène et ils ne sont jamais, ils sont toujours bien traités à la fois par les autres spectateurs et par les comédiens qui les font participer, je dirais, avec pas mal de finesse. Donc voilà, c'est une petite merveille. Ça se donne jusqu'au 24 mars au Théâtre de la Bastille. Ça a tourné, je crois que ça va continuer à tourner. C'est un spectacle qui est assez court et qui réverbère longtemps après.
Ouais, vous nous donnez très envie. Il faut rappeler qu'il avait été créé au Théâtre de Vanves, ouais. Autre lieu important. Dorine, autour de Lettre AD d'André Gortz, texte et mise en scène David Geselson, effectivement jusqu'au 24 mars. Au Théâtre de la Bastille, il devrait y avoir des dates au mois d'avril à l'Air Libre, à côté de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande. On espère qu'il y en aura d'autres aussi à suivre. On ne manquera pas de le faire savoir par ici.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et il en faut un sacré culot pour amener Arthur Rimbaud sur les planches d'un théâtre. C'est ce qu'a fait le comédien Jean-Quentin Châtelain, mis en scène par Ulysse de Gregorio avec Une saison en enfer, présenté en ce moment au Lucernaire, dans la salle dite du Paradis, la plus petite, tout en haut du théâtre, l'enfer au paradis. On sait qu'avec Jean-Quentin Châtelain, ça passe, le plus souvent, ou ça casse, parfois aussi. On a tous, pour peu qu'on aille un peu régulièrement au théâtre, des souvenirs sans doute importants avec Jean-Quentin Châtelain, pour ma part, que ce soit dans Aude Maritime de Pessoa ou dans Gros Câlin, dans des registres donc très différents, Romain Gary. Ça passait incroyablement bien, mais donc c'est vrai que quand j'ai vu annoncer ce spectacle, je l'ai proposé au sommaire de cette émission, sachant que c'était à risque. On va écouter un extrait, ce qui est compliqué, particulièrement pour ce spectacle, un extrait d'Une saison en enfer.
Voyez comme le feu se relève, je brûle comme il faut. Va, démon! J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision? L'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes. C'était des millions de créatures charmantes, un suave concert spirituel, la force et la paix, les nobles ambitions, que sais-je? Les nobles ambitions. Et c'est encore la vie. Si la damnation est éternelle, un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas? Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur. Et vous avez fait l'autre. Pauvre innocent.
Voilà pour cet extrait. Compliqué, hein, je le disais, l'extrême. Enfin bon. Nous avons eu la chance ou pas, on va le voir ici, de voir ce spectacle dans son intégralité. On va essayer d'en donner un peu nos impressions, ressentis, analyses. On commence avec René Solis.
Non, c'est évidemment très bien d'entendre la voix de Jean-Quentin Châtelain, parce que bon, tout est là quand même pour les spectateurs, y compris, je pense, pour certains, pour les auditeurs, en l'occurrence, une réaction de rejet, hein, avec ce phrasé extrêmement particulier. D'ailleurs, il faudrait peut-être faire appel, pas seulement à des gens de théâtre, hein, pour parler de la voix de Jean-Quentin Châtelain, mais à des musicologues, éventuellement. Il y a quelque chose de évidemment très musical et de très travaillé. Certains y verront une sorte de, d'ailleurs, d'affaîtrie, ce qui est, je crois, pas du tout le cas. Alors, il y a des choses qu'on identifie, hein, qu'on entend bien, que la tendance à allonger les première syllabe, et il y a là-dedans quelque chose de l'accent suisse qui ouais. est, voilà, l'accent de... Sauf que c'est un accent suisse complètement déconstruit, si on peut dire, parce que ça ne ressemble pas du tout à l'accent suisse. Mais il y a quelque chose de ça qui reste quand même, qui est plutôt intéressant. Et qui d'ailleurs... alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut rester extérieur et rejeter même, parce que trouver que c'est, voilà, que c'est trop, qu'il y a un travail sur la diction qui est tellement pas apparemment naturel qui provoque du rejet. C'est pas mon cas. En tout cas, c'est pas mon cas pour ce spectacle. Et je trouve, moi, que j'ai retrouvé quand même, en partie en tout cas, le Jean-Quentin Chatelain d'Aude Maritime, le spectacle que vous citiez, le spectacle mis en scène de texte de Pessoa, mis en scène par Claude Régis. Et alors, il faudrait maintenant parler de la gestuelle de Jean-Quentin Chatelain, parce que c'est quand même extraordinaire. Il passe 1h20 que dure le spectacle. Les pieds au sol, et quand je dis les pieds au sol, c'est qu'il ne bouge pas les pieds d'un millimètre, à peu près pas. Donc il est enfoncé dans le sol, comme ça. Il y a quelque chose de terrien, on a souvent dit ça pour lui, et qui est, je trouve là aussi tout à fait fascinant, parce que c'est le contraire du stand-up comédie. C'est vraiment la comédie immobile, si je puis dire. Il est comme ça.
Et sur un sol noir brillant, et au centre d'un cercle de sable, de terre.
Oui,
de...
qui est en fait un cratère de volcan, la bouche de l'enfer, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est très simple, il n'y a pas de moyen, mais en tout cas, c'est affirmé. Et voilà, j'ai quand même entendu absolument le poème de Rimbaud, dans sa dimension évidemment aussi pathétique, c'est-à-dire dans cette espèce de grande angoisse sur la création tarie. Hein, il y a quelque chose là qu'on entend, et je trouve que oui, finalement, y compris avec ces effets comme ça de ralentissement, on est quand même dans quelque chose sur le sens et évidemment les mystères du poème. Et voilà, donc oui, je trouve que c'est un petit spectacle qui, moi, m'a plutôt convaincu.
Elisabeth Franck-Dumas, sur cette saison en enfer, en lucernaire.
J'aurais bien envie aussi de parler de l'accent suisse de René Solis. J'aime beaucoup quand René Solis fait l'accent suisse. Écoutez, non, moi je suis moins convaincue. Je dois dire que ça m'a plutôt gênée, parce que je trouve que, certes, on entend très bien la voix de Jean-Quentin Chatelain, c'est lui, mais premier problème, justement, dans le texte de Rimbaud, ce qui est magnifique, c'est cette multiplicité de voix. C'est toujours le poète, et en même temps, c'est le poète qui prend des voix différentes, qui a des incarnations différentes. Ce sont les accélérations, les ralentissements, c'est l'énergie qui porte l'ensemble. Et là, j'ai quand même trouvé ça. Et bon, alors c'est très statique, voilà, vous l'avez décrit. C'est un parti pris qui m'a dérangée. Ce chuintement particulier, cette manière de découper les mots. Oui, c'est vrai, ça fonctionne parfois très bien, mais je trouve qu'il y a une musicalité propre à la phrase de Rimbaud qui fait qu'en fait le spectacle en avait pas besoin. Et c'est-à-dire que on a presque l'impression que c'est un système qu'on applique à chaque fois. Alors je crois que non seulement Jean-Quentin Chatelain a travaillé avec Claude Régis, mais le metteur en scène aussi également. Et pour moi, ce spectacle, ça a plus servi à me montrer ce que j'aime chez Régis et le fait que justement, n'est pas Régis qui veut. Et là, je trouvais, on le sentait, on sent cette influence, mais là, pour moi, la magie n'opère pas. Je suis vraiment restée extérieure à la chose parce que j'avais l'impression que c'était plaqué sur le texte de Rimbaud. J'ai pas trouvé incarné.
Alors, particulièrement sur un spectacle comme celui-ci, je pense vraiment que d'une représentation à une autre, ça peut être quand même très différent. Et là, pour le coup, on était ensemble avec René Solis, mais pas avec vous, Elisabeth Franck-Dumas, parce que les accélérations, les ralentissements, les incarnations différentes, moi, je les ai absolument entendues. Le soir, en tout cas, nous l'avons vu interpréter. Pour dire les choses très simplement, moi, j'ai jamais eu un accès aussi simple, aussi concret, aussi direct au texte de Rimbaud. Pour moi, il a cette faculté, Jean-Quentin Chatelain, à son meilleur, d'entrer de façon extrêmement concrète dans un texte qu'il est parfois beaucoup moins. Moi, ça m'a absolument subjugué. Alors, il y a aussi, je parle de mon expérience de spectateur, des moments où la tension se détache aussi, mais ce qui n'est pas du tout un problème, parce que je trouve qu'il est peut-être bras ballants, mais il est toujours bras ouverts pour nous réaccueillir dans ce récit, dans cette incantation, dans ce récit-là, et que voilà, moi je revenais très facilement, même si je n'ai pas souvent décroché d'ailleurs pour un spectacle de cette nature, c'est vrai qu'on peut avoir l'esprit un peu vagabond. Là, voilà, j'avais tout le temps Jean-Quentin Chatelain qui était prêt à me réaccueillir à la moindre inattention. Mais moi, c'est peut-être pour le coup à mettre au crédit d'Ulysse de Gregorio, le metteur en scène. Moi, j'ai eu pour le coup très peur dans les premiers instants du spectacle, parce qu'effectivement, le noir se fait. Quand la lumière se rallume, Jean-Quentin Chatelain est donc au centre de ce cercle, alors dit de l'enfer. Peut-être Dante, pourquoi pas. Et ça commence très lentement avec juste une douche comme ça de lumière sur lui. Et je me suis dit, ah non, ils ne vont pas nous refaire du Régis sans Régis. Mais. Fort heureusement, en tout cas le soir où nous l'avons vu, il y a effectivement des vrais changements de rythme, des vrais changements d'incarnation. Et j'ai même cru, vous parlez de musicologue, j'ai cru qu'à un moment donné, il chantait Jean-Quentin Chatelain, sauf que c'est le texte qu'il chante et que donc lui est proche du chant par moment. Moi, je trouve que c'est vraiment une expérience très rare de partage poétique, parce que c'est une occasion d'entendre quand même un texte d'une liberté, enfin j'enfonce des portes ouvertes, mais là je l'ai vraiment ressenti peut-être plus encore qu'aux lectures que j'ai pu en faire. René ?
Oui, et puis voilà, il dit, vu dans le programme, il dit d'assez jolies choses sur son rapport au texte. Il se compare à un âne batté. Il dit qu'il est, il est comme un âne qui porte le texte sur son dos. C'est le fardeau, mais qui avance, qui est au travail, quoi. Donc voilà, et puis il parle aussi de sa mère qui était. Qui était sculpteur et qui donc façonnait la glaise sous ses yeux. Il raconte comment enfant il était fasciné par ce spectacle de sa mère, les mains dans la glaise. Voilà.
Bah, il faut que je lise le programme.
Oui. Donc voilà. Non. On est d'accord.
Hein, sur le rythme, les changements et sur.
Oui, les changements sont là. Alors c'est vrai qu'il y a une forme d'apparente monotonie, mais qu'en fait, quand on est dedans, quand on rentre dedans, on est tout à fait dans des mouvements qui sont pas du tout répétitifs comme on pourrait le croire. On entend les moments du poème, on entend, oui, il y a des fois où on peut partir un peu, et puis oui, il nous ramène, c'est vrai. Non, il y a un gros travail quand même sur le rythme général.
Ah oui, c'est-à-dire, sur c'est la structure vraiment interne du texte.
Oui, il a bossé, quoi.
Ouais,
non, moi aussi, je trouve que j'ai eu aussi assez peur. Il m'agace, hein, je veux dire, et je comprends très bien qu'il puisse s'agacer. Je comprends parfaitement qu'on rentre pas dedans. Et si on rentre pas dedans, je comprends parfaitement aussi qu'on trouve que c'est de l'ordre du système. C'est une réaction que j'ai pu avoir quelquefois à des spectacle avec Jean-Claude Chana. Là, pour le coup,
et puis là, encore une fois, vraiment une part de chance, parce qu'il ne peut pas donner la même chose tous les soirs. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est pas, évidemment, c'est tout sauf une machine.
Moi, je suis souvent sortie. Hein. Le début m'a rebuté, ça c'est certain. Je ne sentais pas l'énergie. Bon, en plus, je pense que le problème, c'est que on a tous un rapport extrêmement personnel à ce texte, on se fait des idées. L'absence, justement, de nombreuses représentations de Rimbaud fait qu'en plus, eh ben, on projette énormément. Enfin, donc le début m'a rebuté et ensuite je suis souvent sortie. C'est vrai qu'il y a eu pour moi quelques passages savants, notamment Adieu, qui est très réussi. Là, j'avais l'impression de voir la lumière, qu'il se passait quelque chose tout à coup, que le texte s'ouvrait. Mais sinon, j'avais l'impression qu'il traînait le texte derrière lui comme un gros rocher. c'est pas le rapport que j'ai à ce texte. Il y avait parfois des choses qui m'ont semblé être des contresens. Alors je sais pas comment il l'a dit le soir où vous y étiez, mais le quoi à l'éternité, très énervé comme ça, c'est amusant, c'est comme un clin d'œil, mais je trouve que c'est un contresens. Donc non, moi je suis quand même vraiment restée à l'extérieur.
Vous qui avez un long parcours de spectateur de théâtre, vous avez souvent vu Rimbaud comme ça porté seul par des comédiens sur scène ?
J'ai pas de
souvenir. Parce que ça me semble pas, en fait, il me semble que c'est quand même très rare, non ?
Ce que Lucchini avait fait, non ?
Il peut tout faire, il a pu tout faire, moi j'ai pas souvenir, il me semble pas. Non, mais parce que c'est, effectivement, quand je dis quel culot, il en faut quand même, alors.
Oui, c'est vrai que c'est culotté. Et c'est culotté, je pense, à cause de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que Rimbaud sur scène, on s'attend, alors qu'on sait qu'on ne devrait pas, parce que tout ce qu'on sait de la poésie et du théâtre nous a enseigné à ne pas avoir cette attente-là, mais on s'attend à voir Rimbaud. Voilà, un petit peu. Enfin, il faut lutter contre ça. Et je trouve qu'il ne réussit qu'à moitié à lutter contre ça.
Bon, bah, pour suivre le petit salon, il faudra que ce soit une femme un peu âgée qui joue bientôt des textes sur Rimbaud pour aller vraiment sur le texte. Bon, alors, apprendre ou à laisser, moi, apprendre totalement. Moi, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire que d'aller au Lucernaire. On a jusqu'au 6 mai, hein, on a du temps. C'est à 19h, ça dure 1h15.
Au paradis.
Pour aller voir Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, mise en scène d'Ulysse Di Gregorio, avec Jean-Quentin Châtelain. On va bientôt conclure cette émission avec un coup de fil que Lucille Comeau va passer à Anne Théron. Mais d'abord, je mets une première fois à nouveau, Lucille, à contribution pour parler du jeu de la dispute. Vous rappelez le jeu de la dispute? Vous rappelez celui de vendredi soir? Vous vous rappelez de la question?
Oui.
C'était quoi?
Le Golem est une légende juive. C'est aussi un film fantastique réalisé dans les années 30. Quel en est le réalisateur? Et la réponse est Julien Duvivier.
Un de mes chouchous. Donc on va parler deux fois de Golem ce soir, ce qui est un genre d'exploit. On fait gagner ce soir, à l'occasion du festival Cinéma du Réel, deux invitations pour voir le film Paris est une fête de Sylvain Georges. Ce sera dimanche 26 mars à 21h au Centre Pompidou à Paris. Enfin, deux invitations par personne qui va gagner. Hein. C'est pour pas y aller tout seul. Il y a plus que deux invitations à gagner. Enfin, en tout cas, je l'espère. Non, je précise, ça fait un peu... Vous avez deux chances de gagner, c'est tout. Non, il y a deux places à chaque fois qu'on gagne et qu'on répond bien à la question suivante.
Parmi les personnages qui peuplent le récit Paris est une fête d'Ernest Hemingway, cette fois-ci on croise la grande collectionneuse des années 20. De qui s'agit-il?
La grande. Oui, voilà, vous avez la réponse. Oui, d'accord. Si vous l'avez, cette réponse, auditrice, auditeur, vous nous écrivez en indiquant vos coordonnées postales, bien sûr. Alors, le courriel, l'adresse est auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello!
Ce soir, le coup de fil de la dispute va au Grand Air, scène nationale de La Roche-sur-Yon, où on pourra voir demain Celle qui me traverse. Bonsoir Anne Théron.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, vous êtes dramaturge, réalisatrice, en l'occurrence metteur en scène et chorégraphe de ce spectacle. Sur scène, deux danseuses, Julie Coutant, et Akiko Asegawa, et aussi un dispositif vidéo qui donne à voir et à entendre quatre femmes artistes, la compositrice Florence Bachet, la cinéaste Aurélia Georges, la photographe Elisabeth Prouveau et l'écrivaine Lydie Salver. Alors le spectacle est sous-titré « Poème chorégraphique ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un poème chorégraphique?
En fait, on est d'ailleurs, je ne sais même plus si on peut dire chorégraphique, parce qu'on s'est vraiment demandé ça lorsqu'on l'a terminé. Et on était à Cognac, à l'avant-scène, chez Stéphane Jouan, et qui était un petit peu à l'origine de ce projet. Et on s'est dit qu'on ne rentrait plus dans aucune case, et qu'effectivement, c'est plutôt un croisement de matières, des matières sonores, corporelles, de l'image, de la sensation. Mais c'est vraiment un travail autour de la sensation, plus que jamais. Effectivement, c'est probablement quelque chose qui relève plus du poème, des choses qui font signe, des choses qu'on peut, qu'après le spectateur peut lui-même recomposer ou composer, tout simplement. Mais en tout cas, on n'est pas, non seulement pas dans une histoire, mais en plus je ne suis pas chorégraphe. Et d'ailleurs, dire que c'est moi qui fais la chorégraphie, non, j'ai accompagné les danseuses sur des choses très précises que je leur demandais, et puis ensemble on faisait le travail. Donc moi je suis juste metteur en scène, c'est-à-dire un chef d'orchestre qui se débrouille pour avoir les gens les plus doués possible autour d'elle et les mettre à l'unisson pour tirer des objets qui puissent emmener le spectateur ailleurs.
Alors de quelle nature il a été votre travail justement sur le caractère chorégraphique, puisqu'il s'agit quand même de danse, les deux interprètes sont des danseuses. Comment vous avez travaillé toutes les trois précisément sur le mouvement, Anne Théron?
L'origine du projet, c'est en fait ça s'appelait Animus, c'était le masculin dans le féminin. Et on se posait la question, comment bouge un homme? Comment bouge une femme? Y a-t-il réellement une différence dans la manière de se mouvoir, etc. Et puis finalement, avec la proposition très singulière et magnifique de Barbara Kraft, ma scénographe avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant, ça a ouvert sur d'autres horizons. Et puis on s'est aperçu qu'au-delà du masculin dans le féminin, c'était finalement qu'est-ce qu'on convoque à l'intérieur de soi pour pouvoir, quelles sont toutes les autres qui nous constituent et qu'on a souvent abandonné au bord du chemin, dont l'enfant, le plus loin possible qu'on puisse remonter dans la mémoire. Donc ça a été, voilà, ça a été, c'est des choses très précises. Il y a par exemple, il y en a un qui s'appelle masculin-féminin, un morceau, il y a un autre chapitre qui s'appelle fusion, il y a un autre chapitre qui est la traversée, enfin voilà. Et moi je suis dans une dramaturgie, c'est-à-dire que je sais très bien qu'il n'y a pas de mots, ça raconte pas, mais qu'en même temps c'est quelque chose au niveau de la sensation. Comment faire pour obtenir cette sensation? Après, il y a des écritures, bien évidemment, corporelles qui m'intéressent beaucoup plus. J'ai toujours travaillé avec des danseurs, j'ai toujours travaillé avec des chorégraphes. Et moi-même, quand j'étais toute petite, je dansais. Je veux dire, il y a quelque chose d'évident pour moi. Et d'ailleurs, je suis probablement passée au plateau pour ça, pour le corps en tout cas.
Votre précédent spectacle s'appelait « Ne me touchez pas ». C'était une variation sur le roman « Les liaisons dangereuses » de Laclos. Dans quel rapport avec ce projet-là est-ce que votre nouveau spectacle se situe, Anne Théron ?
Effectivement, j'avais demandé aux quatre femmes qu'on a filmées, enregistrées, de repartir, parce que le texte que j'ai écrit « Ne me touchez pas », c'est pas simplement une variation, c'est vraiment une réécriture de Laclos, et il y avait derrière moi également le magnifique quartet de Heinemüller. Voilà, je me suis longtemps posé la question de pourquoi j'adaptais pas ces textes-là. J'ai compris au bout d'un moment que je ne voulais plus que les femmes meurent ou disparaissent ou soient anéanties, en tout cas par le désir d'un homme. Je trouve que bon, on pourrait peut-être passer à autre chose. Et déjà, bizarrement, dans les théâtres qui m'accueillent, dans les théâtres qui me coproduisent, en fait, il y a beaucoup de théâtres qui, parce qu'ils ont vu ce spectacle, enfin, nous on appelle ça des objets, cet objet-là, dire, on essayait de me faire confiance au niveau de la danse, comme Paul Sud, par exemple, à Strasbourg, ou La Roche-sur-Yon, où Florence Fèvre avait vu Ne me touchez pas. Et il y a une espèce d'évidence, les danseurs ont toujours aimé mon travail.
L'écran qu'on verra sur scène, et j'en reviens au titre du spectacle, est un écran cheveux, comme vous le dites joliment, c'est-à-dire que les danseuses peuvent le traverser, ça fait comme des grandes languettes qui touchent le sol.
Comment est-ce que vous avez mis... Ce sont réellement des cheveux sur 5,40 mètres de hauteur. C'est véritablement un mur de cheveux. Et les cheveux, vous comprenez, c'est voilà, c'est au sommet de la tête, qui couvre le crâne. C'est d'abord plein de choses hein, dans la symbolique. Je veux dire que plus que jamais, d'ailleurs aujourd'hui, dans une symbolique du féminin, alors que de toute façon beaucoup d'hommes sont aussi concernés par les cheveux, selon les époques, selon les pays, selon les religions. Et effectivement, la question, c'est de savoir comment, enfin, ce qui a été d'abord considéré comme un mur infranchissable. Je veux dire, la première traversée est une traversée quasiment douloureuse. Comment tout d'un coup, ça devient quelque chose qui est pur voltige. C'était peut-être aussi une manière de se questionner autour de ces murs qui n'ont aucun sens, si ce n'est qu'un mur est fait pour être traversé. J'en suis absolument convaincue.
Un grand merci à vous, Anne Théron. Celle qui me traverse, c'est donc demain au Grand Air à La Roche-sur-Yon. Et puis le spectacle poursuit sa tournée. Les 4 et 5 avril, vous en parliez à Pôle Sud à Strasbourg. Et puis du 4 au 6 octobre à la Filature à Mulhouse, il y aura d'autres dates à venir. Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions, site sur lequel bien sûr vous pouvez aussi nous écrire. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux séries. Nous serons en compagnie bien sûr de Lucille Comeau, Iris Bray, Romain Burel et Antoine Guillot à notre affiche When We Rise de Dustin Lance Black. Beau séjour de Nathalie Bastens-Katbels, San Nayens et Bert Vandel et Big Little Lies de David E. Kelly. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.